À la radio, on voit pas les visages des gens qui animent, à moins qu'on soit toujours sur un Facebook Live, ce qui est rarement une cause amateur de sport. Alors, Guy a un peu trahi l'esprit qui m'anime actuellement. Et depuis, surtout hier, bien qu'on savait que ça se dessinait depuis quelques jours déjà, que Mario Cecchini, ancien dirigeant ici d'ailleurs du 98.5, et Danny Machocha étaient sur le point d'être nommés respectivement président et directeur général des Alouettes de Montréal. La semaine dernière a commencé, je dirais pas que j'étais perplexe, mais quand on nous a introduit les nouveaux propriétaires, il faut être cohérent avec ce qu'on a dit dans le passé, je me disais c'est dommage que ce ne soit pas des gens d'ici qui achètent le club. Mais quand les nouveaux propriétaires, en l'espace d'une semaine, disent les bonnes choses, semblent vouloir faire les bonnes choses, embauchent le bon monde, puis ils font ça en dedans de, je sais quoi, 10 jours, puis ça fait 10 ans qu'on attend que de se reconnaître là-dedans, ben c'est difficile d'offrir un accueil hostile à ces nouveaux propriétaires-là, puis à cette nouvelle façon de faire-là. Parce que, je veux dire, ça serait un peu de ça serait à contre-courant de ce que j'ai dit dans le passé. Alors oui, je suis très heureux de la tournure des événements et de voir que Mario Cecchini, bonsoir Mario.
Bonsoir Mario.
Et Danny Machocha, bonsoir Danny.
Bonsoir.
Ont été présentés respectivement comme président et directeur général de l'équipe. Des gars qui voulaient la job, qui la voulaient depuis longtemps et qui ont eu le temps de méditer bien des fois, j'imagine, à ce qu'ils auraient fait dans le passé. Alors, avez-vous dormi un peu au cours des dernières heures avant que je rentre? Parce que j'ai quand même des questions à vous poser.
Absolument.
Là, parce que tu sais, c'est ma job. Mais
sur toi pour faire ta job.
Avez-vous dormi un peu? Parce que ça devait être un 24 heures hallucinant.
Mario, vraiment pas beaucoup.
Non, même la nuit passée encore?
Même la nuit passée.
Ça spin trop, là?
Ben, on est allé, sans parler des autres stations, mais on a fait des entrevues hier jusqu'à presque 22h30, si je me trompe pas.
Oui.
Écoute, j'en ai fait 10-12. J'ai mentionné hier que je suis plus habitué d'être de
l'autre
côté
bord,
de la clôture.
Ouais, ouais.
C'était un feu roulant, littéralement. Là, je m'excuse de prendre les clichés, mais c'est comme ça qu'on le sent.
Avais-tu déjà vécu quelque chose de même?
Ben, malheureusement, oui et non, mais quand on avait malheureusement dû fermer les stations ici, j'avais vécu des scrums puis tout ça sur... Mais hier, le contexte, une bonne nouvelle. Puis Mario, honnêtement, je dois dire, tu sais, des fois, quand les artistes nous disent une vague d'amour, puis hier, là, ce qu'on sentait, ce que tu décris un peu, puis on est très conscient que ça va durer 24 heures. Mais on le prend.
Perds 5 matchs en début de saison, puis...
mais, ça va changer assez vite.
C'est ça. Mais c'est... En fait, ça a commencé depuis 4 jours. Tu sais, les textos, tu dis que ça l'a coulé, évidemment. Donc, les gens aiment les Alouettes. Les gens, quand je dis que c'est ancré, là, on le sent, ils veulent du plaisir, ils veulent que l'équipe gagne. Puis, tu sais, avec Danny, les gens, ça a été vite. Mais tu l'as dit, on mijote ça quelque part depuis longtemps, puis c'était assez facile de prendre ces décisions. Très, très heureux.
Première partie de l'entrevue, je veux parler d'un homme qu'on connaît peu, que vous connaissez un peu plus que nous, parce que là, vous faites affaire avec, c'est votre nouveau propriétaire, vos nouveaux propriétaires. Mais on comprend que M. Stern va occuper plus de place que M. Spiegel. Danny et Mario, mais Danny, la question s'adresse à toi. Veux pas, t'es en contact avec des gens qui voulaient acheter l'équipe, des groupes. Là, tu me regardes, qu'est-ce qu'ils vont me demander, hein? Non, mais je veux que tu me demandes. Je te demande, en fait. Est-ce que moi, j'ai réagi en me disant, pourquoi c'est pas des gens d'ici qui l'ont acheté le club? And Randy Ambrosie a choisi de vendre ça à M. Stern et Spiegel. Est-ce que tu comprends maintenant que tu es en contact avec l'homme, pourquoi ils ont choisi M. Spiegel et M. Stern?
Je dirais que oui. Moi, j'ai pas eu la chance. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Gary Stern. Puis c'est une personne très sympathique. Puis quand je l'ai rencontré, il me parlait comme le fait que même s'il était propriétaire, ça restait que c'était un partisan, puis il savait pas comment gérer une équipe de foot, puis il voulait s'entourer avec du monde qui était qualifié. Puis pour lui, c'était très important de s'entourer avec ce monde-là, puis il voulait rester strictement un partisan pendant les années qu'il va continuer de suivre l'équipe comme propriétaire. Alors, puis quand on a parlé de plusieurs choses, que ce soit le foot, la politique, la vie en général. Puis l'impression que j'ai eue, c'est que c'est une personne que tu peux t'asseoir avec, puis tu peux jaser de n'importe quoi pendant des heures de temps, puis tu te sens très à l'aise. Alors à ce point-là, pendant cette rencontre-là, j'ai commencé à réaliser c'est quelqu'un que je peux probablement facilement travailler avec.
Okay. Qu'est-ce que ce gars-là, comme propriétaire, et M. Spiegel, donc qu'est-ce que ces deux hommes-là peuvent amener de plus que ce que les groupes québécois nous auraient amené. C'est difficile de répondre à ça, je me mets sur le spot, mais je me suis positionné d'entrée de jeu dans l'entrevue en disant oui, on l'accueille, mais je veux savoir qu'est-ce que vous pensez qui peut amener de plus que les autres candidats?
Mario, je vais répondre à ta question dans ce qui peut amener de plus, parce qu'on ne saura jamais ce que les propriétaires québécois auraient pu faire. Mais ce qui va amener de plus, c'est de l'ambition. Tu as vu la posture mentale. Tu as vu hier, il fait des blagues avec la coupe grise puis tout ça, mais pour moi, je prends ça comme c'est une attitude de gagnant. Il n'est pas question de penser autrement. Puis ça, je pense que Danny, on pense la même. Tu sais, c'est sûr que quand on dit ça, les yeux se tournent vers Coach Jones puis vers Danny plus que vers les miens. Mais c'est juste une posture mentale, ça. C'est une façon de penser. Alors ça, on l'aborde de cette façon-là. Il est aussi, je peux te dire, on a passé toute l'après-midi ensemble, puis là, je commence à regarder un peu, beaucoup vers le futur, puis on s'est amusé en fin de journée à dire qu'est-ce que ça pourrait être en 2030? Tu connais ma vie depuis 10 ans, les gens ne le savent pas, mais moi, j'ai vécu là, des transactions de CRTC à tous les fois. Là. Fait que j'étais toujours en fin du propriétaire qui voulait passer à autre chose puis qui vendait. Ça fait longtemps que j'ai eu ce sentiment-là à l'intérieur de moi. J'ai quelqu'un qui est propriétaire depuis 8 jours. Là, je pense que je peux penser que ça va durer assez longtemps, puis ça va être le fun, puis il y a des plans à développer. Alors, il y a un enthousiasme, ce bonhomme-là, délirant de ce côté-là. Vraiment intéressant.
C'est vraiment le fun. Danny, puis c'était bien senti, puis on le savait, je le savais, puis je pense pas que tu t'en es caché non plus. Ça fait 18 ans que tu attendais ce jour-là. As-tu craint que ça se produise jamais?
Il y avait un moment donné, je dirais cette année, que je pensais que c'était une porte que j'avais besoin de fermer, puis de penser que probablement je vais terminer ma carrière de foot à l'Université de Montréal, ou peut-être, si j'étais prêt, de déménager, puis ma famille, puis de vivre d'autres expériences ailleurs. Mais quand j'ai eu l'appel de M. Stern, puis on a eu la chance de s'asseoir, il m'a inspiré beaucoup, puis j'ai commencé à rêver de nouveau. Puis quand j'ai retourné chez nous, puis je l'ai partagé avec ma famille, j'ai dit, pour la première fois depuis une période de temps, je pense.
As-tu été surpris de son appel? Ou tu t'attendais à son appel?
Non, j'étais surpris. J'étais surpris. Il m'a appelé puis il m'a dit qu'il y en avait plusieurs personnes qui ont parlé de moi comme potentiel pour occuper le poste de DG. Et il avait besoin de passer 2 autres personnes en entrevue, mais il voulait me rencontrer. Puis on a eu la chance de se rencontrer pour la première fois le 5 janvier. Puis on a eu une belle rencontre. Honnêtement, c'était plaisant. Puis on a échangé sur plusieurs sujets. Je me sentais jamais que c'était vraiment une entrevue, mais probablement c'est sa façon d'interviewer du monde, mais je me sentais vraiment bien pendant
ça. Ça ressemblait pas à d'autres entrevues que tu as passées dans ta carrière.
C'était plutôt sincère.
Quand toi non plus, Mario.
Non. C'est une conversation.
Oui, oui.
C'est une conversation très directe. Il y a 3-4 affaires qu'il veut savoir exactement. Il te pose la question très directe. Situation X, qu'est-ce que tu ferais? T'es-tu capable de? Si oui, c'est non, puis t'as intérêt à répondre, puis ce qu'il veut entendre, au fond. Très instinctif comme bonhomme. Très intuitif comme bonhomme. Il y a un petit côté italien là, qui vient nous chercher de ce côté-là. Fait qu'on est très... ça a été vraiment une belle rencontre.
Au moment où Gary Stern t'appelle, Danny, donc, je comprends, tu as eu l'année avec les Carabins. Je devine que si tu t'es senti vraiment que tu avais peut-être mis un X là-dessus, que ça a pas dû être une année facile, c'était ton rêve de revenir diriger les Alouettes de Montréal. Fait que c'était comme au moment où tu t'y attendais le moins, ou tu avais encore des contacts avec les gens du processus, ou Randy Ambrosi, le commissaire de la Ligue, ou
non, moi, j'ai perdu contact avec tout le monde quand j'ai publiquement dit dans le mois de mai que ça finissait pour moi, parce que je voulais être concentré sur la saison qui s'en vient à l'Université de Montréal. On a fait quand même une belle saison, on s'est rendu à la Coupe Vanier, puis mon focus était, j'étais complètement concentré sur le camp d'entraînement qui s'en venait, puis la saison. Mais comme j'ai dit, l'appel est venu... je pense que c'était le 31 décembre, puis pendant l'après-midi, puis finalement, on a cédulé une rencontre.
Mais le 31 décembre?
C'est ça, mais je m'entendais même pas. Je savais même pas quoi m'attendre. Puis la seule chose que je lui ai demandé, c'est que cette rencontre soit privée, que ça reste entre nous deux, puis on le partage avec personne. Puis c'est un homme de parole parce que justement, c'est ça qu'il a fait.
Ouais, et c'est pas toujours comme ça que ça finit, mais effectivement,
non,
ça,
justement.
ça vient finir dans ce cas-là. Mario, plusieurs dossiers. Toi aussi, tu es en contact avec des groupes. La candidature de Messieurs Stern et Spiegel est retenue. Dans les groupes dont on a parlé récemment, dont Éric Lapointe nous disait la semaine dernière qu'il souhaitait que tu deviennes le président de l'équipe. Donc, chose faite, Éric doit être content. Mais il disait que dans son dossier de candidature, il y avait déjà des loges de vendus, 21 loges de vendus. Penses-tu qu'on va être bon pour récupérer le travail fait par d'autres groupes? C'était 21 loges de vendus, un fou d'une poche. Éric, penses-tu qu'on peut récupérer le travail qui a été fait par des autres groupes?
On va travailler en ce sens-là. On a déjà, j'ai été en contact avec Éric, évidemment. Il était un des premiers à nous féliciter. C'est un chic bonhomme, évidemment. Et on va tout tenter en ce sens-là. Les gens qui faisaient partie de son groupe, c'est sûr que s'ils sont encore intéressés par l'équipe, je pense qu'ils sont. Ils vont être contactés en temps et lieu. L'intérêt est là. On a vendu aujourd'hui 4 loges. Je peux vous dire ça en primeur. Je peux pas dire les. C'est pas vendu, comme on dit. C'est une poignée de main. C'est pas signé. Alors, on sent cet engouement-là. Puis, si on peut profiter de l'engouement qui avait été créé, des idées qui avaient été générées, puis la réflexion que Danny et moi, on avait commencé d'une façon en parallèle, plus en rêvant pendant l'automne, c'est sûr qu'il y a des plans qui vont se faire, qui vont être mise en action assez rapidement.
Il avait, semble-t-il, même fait une maquette de nouvelles installations. Est-ce que tu es curieux de voir ce que ça donne?
Je laisserai Éric commenter sur tout ce qu'il avait fait ou pas fait, parce que moi, j'étais quand même pas dans le groupe des propriétaires. Il faut faire attention. J'avais été, comme je l'aidais, j'avais été un peu approché. Mais on l'a mentionné hier, mais ça, en même temps, on sent, je pense, ça fait 20 ans, tantôt tu parlais de 20 ans, 10 ans, ça fait 20 ans qu'on parle aussi de réunir les gens sous le même toit. Moi, dans ma première rencontre avec Gary, ça a été clair que ça prenait une bonne raison pour pas que ça soit un objectif précis, rapide. Rapide dans ce milieu-là, le temps de trouver une bâtisse, un terrain, on parle de 24 mois, mais il y a un sens d'urgence qui nous anime des fois que quand...
J'aimerais ça le faire avant ça.
Ça veut dire que plus quelque chose est long, plus il faut commencer tout de suite. Alors oui, puis en commençant tout de suite, on verra où ça nous mène.
Centre d'entraînement, c'est-tu nécessairement Montréal? Ça coûte plus cher du pied carré. Ça peut-tu être le Canadien, lui, son centre d'entraînement, c'est sa rive sud. Ils ont même un terrain de soccer, dimension football intérieur.
Absolument.
Y a-tu des possibilités envisagées, partenariat, ou faut que ça soit à Montréal même?
Non, il y a pas de. Au moment où on se parle, on m'a posé la question hier s'il y avait un brainstorm qui avait commencé, puis je peux même pas dire que j'étais à l'état de brainstorm. On a lancé hier un cri. J'espère que les villes qui nous écoutent peuvent y penser.
T'attends d'être courtisé comme président d'organisation. Toi, tu veux les meilleures conditions possibles.
Absolument. S'il y en a qui veulent nous courtiser, ça va être bienvenu. La RIO, on va leur parler aussi. Ça reste une possibilité. On va voir, y a-t-il des choses à faire là. Je sais que la ministre du Tourisme, au moment où on se parle, est en train de présenter un nouveau projet de loi, ce qui a trait avec la RIO, qui devrait être déposée, je sais pas, dans les prochaines semaines, prochains mois.
Mais là, je fais une petite
pause. On garde toutes les opportunités.
Okay. Je fais une petite pause. LDG, vois-tu ça, toi, le centre d'entraînement de ton équipe de football, peut-être un peu plus loin que le stade, c'est-à-dire comme le Canadien, c'est-à-dire c'est Rive-Sud, Rive-Nord ou ailleurs, ou parce que là, tu vas peut-être être obligé de déménager dans mon coin. Là. Non, mais comment tu vois ça comme DG? Vous allez en parler, vous allez brasser des idées, vous allez dire non, Mario, ça n'a pas d'allure, ça a de l'allure. Puis toi, tu veux-tu sur l'île de Montréal, ton complexe d'entraînement, ou t'as...
Je pense qu'on va prendre la décision qui est mieux pour l'équipe, que ce soit sur l'île de Montréal ou ailleurs. Mais c'est sûr qu'on va le prendre en équipe, puis on va toujours prendre la meilleure décision, que ce soit sur l'île ou à l'extérieur. Mais honnêtement, dans mon cas, moi, où je suis situé aujourd'hui, après 24 heures, je suis même pas rendu là.
Tu bouges pas d'être là.
Non, pour le moment, parce qu'on a d'autres dossiers à régler, mais ça, c'est un dossier que je sais que c'est une priorité pour nous. Puis je suis convaincu que Mario va nous amener des options prochainement.
Un complexe d'entraînement, est-ce que c'est important pour courtiser des joueurs? Je sais que c'est vrai dans les ligues majeures, puis je le dis pas pour discréditer la Ligue canadienne. La Ligue canadienne, c'est la Ligue canadienne. C'est une autre dynamique. C'est important d'avoir un complexe qui coûte 25 millions ou bien tu t'installes, t'ajoutes un beau bâtiment à côté d'un terrain scolaire, puis tu fais 1+1, puis boum, puis tu sauves 10 millions. Je sais pas, comment tu l'envisages?
Au niveau de... Je vais laisser répondre Danny sur le côté des joueurs en tant que tel, mais je peux présumer que oui, mais j'aime mieux que Danny élabore de mon côté ce que je peux te dire. la fierté d'abord de réunir l'équipe qu'on appelle l'administration au sens large, l'équipe. Tu sais ce que c'est d'être à deux endroits en même temps. Il n'y a pas de synergie. C'est dur de bâtir une fierté. Tu peux imaginer un endroit où on pourrait être, puis il y a des belles grandes fenêtres, puis le terrain est là, puis les gens prennent leur pause au lunch pendant qu'il y a une pratique. Puis t'es pas obligé que tu déranges personne, mais t'imagines la fierté que ça cause. Après ça, les écoles qui viennent te voir, c'est accessible.
Ça, je parlais d'un terrain scolaire, ben
oui,
peut-être à côté, je sais
oui,
pas.
Oui, puis on a besoin... Mario, est-ce que je cherche le... J'ai pas le terme, là, juste le terme.
On va t'aider, vas-y. Mais,
des assets, tu sais.
Des valeurs, des acquis, valeurs, des actifs,
merci,
en fait.
Des actifs, merci, le mot français, je cherchais. Et on a besoin de ça.
Alors, des investissements immobiliers ou de terrain.
Puis on a un propriétaire qui est ouvert à toutes les idées sur ça, qui a toutes les possibilités. Fait que tout va être regardé, effectivement. Mais Danny, pour les joueurs, c'est...
Mais pour moi, quand j'ai quitté Montréal en 2002 jusqu'à 2010, quand on était à Edmonton avec les Eskimos, qu'on avait des installations supérieures à qu'est-ce que les Alouettes avaient, mais la plupart des joueurs d'autonomes voulaient jouer à Montréal parce qu'ils... sens de... Il avait de la fierté, il avait de la stabilité, on avait une équipe gagnante, une ville de dynamique. Alors, je pense pas que c'est strictement une question des installations. C'est sûr que les installations vont nous aider, mais c'est de ramener cette fierté-là. C'est de ramener cette
niveaux,
stabilité-là.
Là.
Alors, c'est plus que des installations qu'on a besoin.
Danny, honnêtement, ben c'est sûr que comme t'es un gars, je voyais là depuis longtemps, j'avais hâte de voir ta prestation en conférence de presse. Je trouve que les deux avaient vraiment bien fait ça. Et Danny, particulièrement, parce que il y avait beaucoup d'introspection, on sentait beaucoup de réflexion. T'étais revenu sur Edmonton. T'as dit, tu sais, que t'étais plus près rendu à 52 ans maintenant, directeur général, tout un parcours. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Et permets-moi de creuser un petit peu sur quelque chose que t'as dit. La différence entre le Danny d'il y a un bout de temps puis d'aujourd'hui, c'est que tu dis, je vais m'entourer pour combler mes faiblesses. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut partager au grand jour, mais qu'est-ce que tu identifies comme quelque chose où quelqu'un peut t'aider, toi, qui n'est pas ton point fort?
Mais je veux dire que
parce
ce
que
soit...
tes points forts, on les connaît, mais ça, moi, je le sais, je le sais pas. Là. C'est quoi ton... Que tu identifies, toi, comme quelque chose où tu peux être aidé?
Mais je pense que une des choses que pour moi c'est qui était très important, c'est que je suis capable de déléguer. C'était un problème que j'avais avec les Eskimos d'Edmonton. Puis il faut dire aussi que j'étais pas tout à fait prêt de pas être un coach parce que j'étais assez jeune, j'étais coach, j'étais sur le terrain, j'appelais des jeux, puis là le lendemain je suis le directeur général de l'équipe. Puis j'ai pris des décisions malheureusement que c'était pour accommoder certaines personnes, puis moi-même je me suis entouré avec beaucoup d'amis qui malheureusement avaient pas une certaine expertise que j'avais besoin pour qu'on était capable d'avoir du succès sur le terrain. Alors, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que de m'entourer avec du monde qui ont des forces que je considère des faiblesses, que ça soit technologie, que ça soit qu'est-ce que j'appelle des fois du forward thinking aussi en anglais, puis d'aller chercher une certaine expertise, que ça soit que des joueurs autonomes, on a toujours pas besoin d'aller de dépenser des 100, 150, 200 millions, d'aller faire des camps aux États-Unis, des endroits où il y a des divisions 2, des divisions 3, où il y en a des excellents joueurs que des fois ils se font même pas repêcher. Puis c'est sûr que ça leur tente de venir dans la Ligue canadienne puis de s'établir avec un rêve un jour de retourner chez eux puis de gagner leur vie dans la Ligue nationale. Alors, il y avait plusieurs aspects que je pense que malheureusement, on a mal géré à Edmonton qui m'a aidé énormément. Puis j'ai appris de tout ça puis ça m'a aidé énormément pour bâtir ce qu'on a bâti à l'Université de Montréal. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Puis justement, je suis dans le processus d'engager du monde que je pense que peut nous aider pour nous amener à un certain niveau puis d'aller chercher cette stabilité qu'on en parle depuis plusieurs années ici.
C'est la voix de Danny Machocha, nouveau directeur général des Alouettes de Montréal. Mario Cecchini, président des Alouettes de Montréal. On revient dans un instant aux amateurs de sport. On est bien content d'avoir avec nous en studio en direct ce soir le nouveau président des Alouettes de Montréal, Mario Cecchini, et Danny Machocha, le nouveau directeur général. Messieurs, permettez-moi, chacun dans votre domaine, et regardez-vous savoir qui est le mieux et le plus habilité à répondre à la question, mais parce que je pense que la question est bonne autant le département de football que l'administration. Est-ce que le ménage, vous arrivez arrivez-vous d'une maison où le ménage a été fait, au sens figuré, où vous arrivez, puis là, vous faites le ménage, Mario?
Écoute, je pense pas que... J'ai pas vraiment envie de parler de ménage. Hier, dans mes objectifs primaires, les enjeux précis, on a parlé de maximiser les revenus. Il y a toujours deux façons de régler une situation qui est déficitaire. Tu peux couper, puis tu peux augmenter les revenus. Je pense que dans notre cas, il y a de la place pour augmenter les revenus parce qu'il y a de l'espoir au moment où on se parle. Puis grâce à la saison de 2019, on l'a démontré. Les gens ils ont cet enthousiasme-là. Maintenant, y a-t-il de la synergie à faire? Est-ce qu'on va revoir les structures? Est-ce qu'on va garder des choses? Ça, les gens le savent.
Je comprends que tu t'éloignes du mot ménage, parce que là, je comprends ce que ça peut vouloir dire. Puis, est-ce que tu t'attends à découvrir des vices cachés plutôt? Ou tu penses que le portrait est clean?
Je pense que le portrait est clean. On n'a juste pas tout fini. Faut que je ne peux pas répondre de façon très affirmative, mais il n'y a rien qu'on a vu. Dany et moi, on se le disait en rentrant des deux côtés, auquel on ne s'attendait pas. Fait qu'en ce sens-là, il n'y a pas de vice caché, il n'y a pas de surprise. Puis on va travailler ensemble sur les synergies puis voir comment on peut évoluer après ça. C'est maximiser le talent de chacun, faire rayonner le talent de chacun. C'est là-dessus qu'on va.
Billet de saison, vous partez où, Mario? C'est où la situation actuelle?
Écoute, j'ai même pas de chiffre, Mario, aujourd'hui, parce qu'on n'est pas rendu là, honnêtement. Il me semble que l'année passée, il parlait de chiffre de 6 000, 6 500, 6 000. Oui. Alors, c'est le chiffre là, que j'ai.
C'est ça,
mais tu sais, je ne l'ai pas vu encore dans une filière. Okay. Mais ça doit être à peu près ça encore.
Donc, il se pourrait que tu découvres des choses.
Ben, j'aime à penser que non.
Positive ou moins.
J'aime à penser que non, parce qu'il y a quand même eu un processus de vérification diligente qui a été fait, quoique rapide, mais tu sais, 3 semaines pour regarder les alouettes, c'est correct, là. C'est pas un temps qui était trop court. Alors, je pense pas qu'on va découvrir des choses extraordinaires.
On va revenir à ça. J'enchaîne avec Dany. Dany, toi, dans le département de football, tu deviens le DG. Est-ce qu'il y a des vices cachés ou on les connaît tous en partant? Tu sais les choix que tu n'as plus, etc. C'est quoi le portrait de ce dont tu hérites?
Mais c'est sûr que les choix qu'on n'a pas, on aimerait les avoir les deux prochaines années, mais je pense que on a un grand travail sur notre contenu canadien. Ça laisse qu'on a 5 choix parmi les 30 premières dans le repêchage 2020. Oui, on n'a pas de choix dans la première ronde, mais il en reste 5 d'autres pas dans les 30 premières choix. Alors, je pense qu'avec la QV de 2020 puis le repêchage, je suis convaincu qu'on peut aller chercher des excellents joueurs qui vont avoir un impact pour nous pendant la saison 2020. L'autre chose qui est très importante, c'est de stabiliser la ligne à l'attaque. On est conscient qu'on a un très bon corps ailleurs. On a eu la chance de le regarder jouer l'année passée, Vernon Adams. La chose qui est très importante pour nous, c'est qu'on est capable de le protéger. Parce que la pire chose qui peut nous arriver, c'est que on a un carrière qui court pour sa vie en arrière de la ligne de mêlée. Alors, c'est probablement les deux choses que pour nous, c'est une priorité. On travaille très fort là-dessus. Puis,
tu vois-tu des choses qui pourraient t'empêcher d'enchaîner sur la saison que les Alouettes ont connue l'an passé? Crois-tu que les choix qui manquent, et c'est là, puis les choses que tu constates vont... Parce que tu sais, des fois, tu as des équipes qui ont un soubresaut, puis là, ils ressombrent un peu avant d'émerger. Penses-tu qu'on est capable d'enchaîner sur ce qu'on a eu envie de voir, ce qu'on a vu l'an passé?
Oui, absolument. Oui, absolument, okay, bon. Parce que quand je pense à tout ça...
Il n'y a pas d'obstacle à ça. Dans ce dont t'hérites.
La chose qui m'inspire beaucoup, c'est notre staff, pardon, d'entraîneur avec Harry Jones puis ses assistants coach. Ils ont une saison morte pour travailler sur le travail qui est déjà fait en 2019. Alors, ça m'inspire beaucoup parce que la situation où ils ont hérité cette équipe-là était loin d'être idéale. Puis quand même, ils ont eu des bons résultats avec une fiche de 10-8. Alors, le fait qu'on va passer 6-7 mois ensemble avant d'aller au camp d'entraînement, je pense qu'on peut seulement espérer que ça va s'améliorer avec des effectifs puis avec un petit peu de profondeur. Ça va nous aider, c'est sûr et certain.
Ça fait des années que tu déplorais, je n'étais pas le seul à le faire, l'absence des Alouettes dans les rangs universitaires québécois, le long des lignes de côté des matchs ou des entraînements. Et Carrie Jones est allé voir du football universitaire. Même si tu le connais depuis 2006, est-ce que après le contact qui s'est recréé de par ta position avec les Carabins et lui qui venait voir du football universitaire, est-ce que tu savais dès lors que tu pourrais travailler avec? Parce que là, quand Gary Stern t'appelle, t'offre la job de DG, ton coach est déjà là. Avais-tu besoin de reparler, de valider avec Gary? J'imagine que vous êtes reparlé ou tu savais que ça pouvait marcher? Parce qu'en plus, tu lui donnes les pleins pouvoirs sur l'embauche de ses entraîneurs. C'est pas tous les coachs qui ont eu ces acquis-là. Là.
Mais moi, la chose que je trouvais vraiment intéressante avec Harry, même avant qu'il était entraîneur en chef, il venait à l'Université de Montréal pour venir voir des matchs.
Avant ça, même.
Il venait avec Jason Tucker, qui était l'entraîneur de receveur, puis Harry était le coordinateur à l'attaque. Puis il me textait, puis il voulait savoir s'il pouvait avoir des billets. Puis moi, je lui donnais des passes sur les lignes de côté entre les deux bancs. Puis mai de l'année passée, finalement, j'ai eu la chance d'aller souper avec lui, puis je lui ai dit... Je l'appréciais énormément, le fait qu'il était pas seulement à l'Université de Montréal, mais je l'ai vu sur la ligne de côté à Concordia, je l'ai vu sur la ligne de côté à Laval. Puis qu'est-ce que j'ai compris, c'est que c'était lui qui a pris l'initiative de le faire. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai jamais oublié.
Respect.
Puis j'ai eu une conversation avec lui vendredi passé pour lui faire comprendre que c'est très important aussi qu'on fait partie du développement des entraîneurs québécois. Puis qu'est-ce qu'on va faire quand on s'en va au camp d'entraînement? On va inviter tous les coachs dans les rangs universitaires, les 5 universités. On va les encourager de venir chez nous. Ils vont être sur le terrain, ils vont être dans la salle des réunions. Puis c'est une forme de développement. Puis je pense que si on est capable de créer ces relations puis avoir ces liens en place, ça peut seulement nous aider avec des joueurs, mais aussi que peut-être dans quelques années, on peut avoir un Québécois à la barre des Alouettes de Montréal.
J'ai envie de dire alléluia. Alléluia. Non, mais pour vrai, mais les gars, sérieusement, je vous regarde, on se connaît tous les trois. Vous autres, vous êtes condamnés à réussir, là. Je sais pas si je peux faire des analogies, mais on est représentant. Tu sais, vous êtes les gars qu'on souhaitait voir. On voulait voir des gars d'ici gérer ça. Là, vous êtes en place. Enfin. Mais il faut que vous réussissiez. Hein? Quand je dis ça, ça vous stresse-tu un peu? Non, mais sentez-vous, ça, cette obligation de réussir?
Depuis 20 ans.
C'est pas nouveau pour
Mario,
toi dans la vie, Mario?
Garde l'exemple qu'on a vécu ensemble de proches. Chorus, quand j'arrive ici en 2006, c'est un conseiller public, là, mais 14 ans après, je pense que je peux en parler. Il n'y avait pas de profit ici, là, en 2006. J'arrive dans une situation où, sur l'ensemble du Québec, tu sais de où on est parti, tu as vécu ces cas d'espace, ça perdait 4 millions, ça a fait du profit à la fin. Alors, c'est pas nouveau. En business, on est condamné à réussir aussi. Puis dans des compagnies publiques, on est jugé à chaque 3 mois. Il y a des résultats qui sortent, puis les employés voient tout. Il faut que tu livres. Les employés te regardent, tu fais des moves, c'est mieux de marcher. Vous êtes condamné à réussir tout le temps. Alors, c'est pas nouveau. Là, ce qu'on s'habitue un peu plus, comme tu disais, c'est d'être l'autre bord du micro. Mais dans mon processus de réflexion, j'ai jamais pensé à ça. C'est naturel, puis je suis content d'être ici. C'est la première fois que je suis dans un studio, je ne commente pas les codes d'écoute. Je viens ici pour autre chose.
C'est vrai. Danny, la pression de réussir.
Mais la pression. Ouais,
comme écoute, Québécois. Comme Italo-Québécois aussi.
Non, moi, je vais t'expliquer ça. Moi, j'ai jamais senti de la pression dans ma vie. Moi, je vois ça comme une opportunité. Pas de pression. Moi, je pense que la pression, c'est quand tu arrives chez vous, puis tu as une famille, puis tu peux pas mettre de la bouffe sur la table. Je comprends. C'est de la pression. Ouais. Pour moi, qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est une belle opportunité. Okay. Puis j'ai vraiment hâte de le vivre avec Mario puis l'équipe qu'on a en main.
On va paraphraser Lee Trevino. La pression, c'est quand t'as un pote pour 10 piastres puis dans tes poches, t'as juste 5 piastres. Ça, c'est la pression.
Ça, c'est bon, hein? Hey, Mario, ça fait 10 ans que tu rêvais, que tu pensais à la possibilité d'avoir cet emploi-là. Danny, ça fait 18 ans. Ben là, les gars, vous êtes dans les blocs de départ. Et boy, on a hâte de voir ça sur le terrain. On espère que ça va enchaîner. Bonne chance, les gars, sincèrement.
Merci,
bonne
Marie.
Chance. Et puis j'espère que vous allez réussir à vendre des billets, convaincre les gens de retourner au stade. Ouais. Puis on va s'en reparler. On réglera pas tout ce soir, mais je vous dis à bientôt et bon début d'aventure.
Merci
à toi.
Mario. Merci.
Danny Machocia, Mario Cecchini. Dans un instant, Jérémy Filosa avec Thierry Henry, Jérémy Rainville sur un avant-goût du Bonsoir les sportifs. Martin McGuire va venir nous parler de la journée du Canadien Brossard également. À tout de suite.